voit les chambres de Moussaï au Café Oriental. Je refuse totalement cette
histoire. Voici Céline qui vous m'a dit au Cacanda. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, d'affiche de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous donne l'occasion d'échanger de manière citoyenne. La semaine dernière, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont exhorté le gouvernement congolais à favoriser des conditions compatibles avec la tenue d'élections libres, transparentes, inclusives et pacifiques, avec un point de mire la présidentielle et les législatives nationales. Après avoir lancé des mises en garde à répétition, l'Occident annonce d'éventuelles sanctions à l'endroit des personnalités présumées responsables du blocage du processus électoral et des restrictions des libertés fondamentales. Entre-temps, les gouvernements congolais, par l'entremise du ministre de la Justice, demandent aux ambassadeurs accrédités en RDC de chercher la vraie information à transmettre officiellement à leur pays respectif sur la situation en République démocratique du Congo pour le traverser, notamment dans la spéculation. Comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Julie Felta Bongonda est au standard. Dieudonné Nyangas à la mise en onde. Pierre Lamégie à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Labong. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Nous recevons le premier auditeur qui va ouvrir les débats de ce jour. Bernard, vous êtes à Madrid, en Espagne. Bernard, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur J.R. Lungembo.
Voilà, vous avez suivi l'actualité comme nous, par rapport à la position de l'Union européenne tout à l'heure, qui venait de mettre en garde, au fait, le gouvernement congolais, aussi a annoncé d'éventuelles sanctions à l'endroit des personnalités présumées responsables du blocage du processus électoral et des restrictions de liberté fondamentales. Et juste après, il y a eu une réaction du gouvernement par l'entremise du ministre de la Justice qui demande aux ambassadeurs accrédités en RDC de chercher la vraie information à transmettre officiellement. Et là, ça relance le débat sur la problématique de la souveraineté d'un État.
Si, nous avons suivi les informations comme vous autres, mais moi je pense que ce que le diplomate européen dit, c'est une vérité. Pourquoi? J'ai quatre cas qui peuvent le démontrer. Le premier cas, c'est celui-ci. Même qui passait de Monsemoine pour Katumbi, qui est jugé à Lubumbashi, et l'audition est suspendue. Après la suspension de l'audition, l'inculpation de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il veut montrer par là? Donc la justice n'est pas en fait juste. Le deuxième cas, l'interdiction des marches. Il y a tuerie à Béni, on tue nos compatriotes, chaque jour et à chaque heure. Les gens veulent dire non. Ça ne va pas, trop c'est trop, ça doit s'arrêter. On doit marcher pour dire non, il faut que ça s'arrête. Et le pouvoir en question, on va dire pas question de marche. Sur 21 provinces de la République démocratique du Congo, il y avait seulement 2 provinces qui avaient accepté que la marche puisse avoir lieu. Et même cela, à Kinshasa, ça n'a pas abouti à la fin. Et le troisième cas, représailles des étudiants, des listes, on a suivi ça. Les gens qui veulent réclamer leurs camarades qui étaient arrêtés. Et la police va envoyer des éléments là pour représenter les étudiants à balles réelles. Qu'est-ce qu'on peut dire par là? Et le quatrième cas, la fermeture des chaînes des opposants. Si vous pouvez me donner un cas d'une chaîne de télévision, une radio, des messieurs, des ministres qui ont pouvoir, qui est fermé, si ce n'est pas seulement les chaînes de télévision des opposants qui sont fermées. Et tout ça, on ne peut pas dire, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des questions de l'espace politique? Eux aussi.
Oui, Bernard. Est-ce que vous ne pensez pas comme les autres que le fait d'assister à ce jeu de ping-pong entre l'Union européenne et le gouvernement congolais, ça relance quand même le débat sur la problématique de la souveraineté d'un État.
Si, mais la République démocratique est notre pays souverain. Mais cela, nous dépendons aussi de ces gens-là, des Européens, parce que pour le moment, on doit organiser les élections. Mais on attend l'argent. Pourquoi on ne peut pas financer les élections avec notre propre argent? Pourquoi on attend seulement l'Union Européenne, l'ONU, tout ça pour nous financer? Si on est souverain.
Voilà, merci beaucoup Bernard d'avoir appelé et contribué dans cette émission. Avant cela d'ailleurs, vous nous avez envoyé un message sur notre page Facebook. Vous avez bien dit depuis Madrid ce que les diplomates européens ont dit. C'est une vérité car chaque jour qui passe, il y a restriction et blocage du processus électoral au Congo. Comme exemple, vous venez d'ailleurs de le citer, la semaine passée, l'opposition avait organisé une marche et cela a été autorisé seulement à Kinshasa et Bukavu, seulement et pour quel motif? De deux, la CENI attend les résolutions du dialogue pour sortir le calendrier global pour les élections et pourquoi la plupart des chaînes de télévision et radio des opposants sont fermées. Alors, en ce qui concerne déjà la CENI, nous avons eu à traiter ces dossiers hier et nous avons reçu de la part du président de la CENI quelques garanties et que dans les jours qui viennent, le calendrier sera publié. Merci beaucoup, disons Bernard, d'avoir appelé de Madrid. Franck, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Franck.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à toute l'équipe de Terre et à tous les amis avec qui nous allons nous échanger.
Alors, pour Bernard, c'est vrai, la réaction des diplomates européens reste dans le cadre normal de rapport entre États. Aujourd'hui, avec le processus qui est bloqué, la façon d'agir n'a rien à voir en ce qui concerne l'ingérence dans les affaires de notre État.
Oui. Monsieur le journaliste, parfois c'est un peu honteux de voir ce qui s'est passé chez nous. Vous savez que quand vous voulez dire une chose, il faut la vouloir dans son intégralité et non vouloir une chose et un moment et son contraire. La RDC, notre État, est membre de certains organismes internationaux, notamment l'ONU, l'Union africaine et un peu ainsi de suite. Et en ce moment, en ce sens-là, la RDC est tenue aussi de respecter certaines normes juridiques qui les lient à tous ces organismes-là. Et je crois qu'on doit éviter de jouer les ping-pong parce que on doit clairement dire aux gens qu'il y a manque de bonne volonté pour organiser les élections au lieu d'aller de prétexte en prétexte, d'alibi en alibi, comme si les Congolais moyens ou bien les Congolais instruits étaient dans l'incapacité de comprendre les jeux de ce qui se trouve en police. Et quand on parle de la souveraineté de notre pays, ça donne toujours à penser. Nous voulons que ce pays soit souverain, mais nous voulons aussi que la culture démocratique puisse être inculquée dans les mentales de nos leaders politiques ou de ces gens qui nous gouvernent. Parce qu'on ne peut pas parler de la démocratie à 3 à 4 vitesses selon les jeux d'intérêt. Et je crois que on doit parler par 4 chemins. Donc si nous reconnaissons que la RDC est membre de certains organismes internationaux, donc on doit aussi respecter les normes qui nous lient à tous ces organismes. Mais on ne doit pas seulement, quand il s'agit de solliciter des aides, ils sont nos amis, nos partenaires, nos alliés, et quand ils doivent maintenant intervenir pour nous rappeler ce que nous devons faire par rapport à ce contrat qui nous lie à eux, on brandit l'argument de notre
société. Oui, mais Franck, est-ce que nous sommes tous dans la compréhension générale de l'article 215 de notre Constitution, qui stipule notamment que les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie?
Oui, mais je crois qu'il y a aussi des rapports entre États qui jouent plus les rapports de force. Je crois que du moment où la RDC attend d'abord une bonne partie du financement des élections des autres, donc elle doit se montrer aussi ouverte aux suggestions ou un peu aux suggestions, aux conseils, quoi. Mais quand ce genre à qui vous présentez vos desiderata, tout ce que vous pouvez le faire au moment X, et que maintenant de l'intérieur vous ne jouez pas sans jeu, ils sont aussi des hommes qui réfléchissent. Je crois qu'on aimerait que notre État puisse se respecter. On aimerait que tout le monde nous respecte. Mais je crois qu'avant que les autres nous respectent, nous devons d'abord apprendre à nous respecter. Et la question que nous pouvons nous poser simplement, est-ce que nous nous respectons vraiment de manière honorable avec la façon de faire ici? Qu'est-ce qui bloque la machine? On ne sait pas dire clairement aux gens, c'est l'argent qui manque, c'est la volonté politique qui manque ou qu'est-ce qui manque, mais dites-le aux gens, si vous voulez rester, dites-le aux gens, on veut rester parce qu'il y a ça. Si c'est l'argent qui manque, dites-le qu'il y a ça. Mais on ne peut pas aller d'alibi en alibi parce que les arguments qu'on est en train de brandir, les arguments financiers, tout ça, mais de 2011 à 2016, on savait qu'il y aurait élection. Qu'est-ce qui manquait maintenant de prévoir dans cette chaque paquet budgétaire une enveloppe, un pourcentage pour les élections? Est-ce que c'est seulement en 2016 qu'on doit se rendre compte qu'on devait organiser les élections au mois de septembre ou de novembre?
Et quel commentaire faites-vous en ce qui concerne l'annonce d'éventuelles sanctions à l'endroit des personnalités présumées responsables du blocage du processus électoral et des restrictions de liberté fondamentale?
En tout cas, moi, je suis mal placé pour me prononcer ouvertement, mais je crois que le droit international doit faire valoir ses prérogatives, quoi. Je crois que on est maintenant au niveau du droit international, au niveau de ces droits qui nous lient à certains États et à certains organismes. Alors, si ceux qui cherchent à faire valoir ces droits trouvent qu'il y a manque de bonne volonté ou il y a quelque chose qui ne marche pas pour qu'on bloque l'organisation des élections alors qu'ils sont prêts pour financer, bon, qu'on fasse appliquer les droits internationaux à l'endroit de ceux qui bloqueraient la machine, parce que la démocratie, c'est une culture qui doit avoir aussi une implication à caractère général et universel. On ne peut pas se dire démocrate par rapport à quel pays, à quel pays. Soit on est démocrate, soit on ne l'est pas. Je crois que on doit se demander la conception de la démocratie que nous avons chez nous et la conception de la démocratie que nous voulons faire asseoir pour l'avenir de notre État.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé parce que vous évoquez le droit international. Nous accueillons Maître Gaël qui est à Kinshasa. En tant que juriste, peut-être que vous pourrez nous éclairer là-dessus. On sait qu'en droit international, Maître Gaël, bonjour.
Bonjour Monsieur Fier, bonjour à tous les fidèles de la radio des Nations.
Alors en droit international, on sait que les relations internationales reposent quand même sur les intérêts.
Oui, bien sûr Monsieur Fier. En relations internationales, l'État n'est plus en mesure de gérer ses problèmes seuls. Il a besoin d'autres États en vue de pouvoir trouver la solution. Et dans l'état d'espèce, lorsque un partenaire vous rappelle ce que vous devriez faire, il est évident que vous puissiez le respecter. Je voudrais dire à ce sujet, l'Union européenne est le premier partenaire commercial de la RDC. C'est une organisation internationale qui connaît bien la République démocratique du Congo. Et moi, à ce sujet, je pense qu'il serait évident pour le gouvernement congolais de pouvoir prendre en compte les conseils qui lui sont prodigués par l'Union européenne afin de citer le pire. Voilà.
Mais alors, nous avons assisté juste après la réaction de l'Union européenne, l'annonce du gouvernement congolais par l'entremise du ministre de la Justice demandant aux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo de chercher la vraie information à transmettre officiellement à leur pays respectif sur la situation en RDC pour ne pas verser totalement dans la spéculation. Donc on peut dire et qualifie cette position de l'Union européenne de spéculation.
Monsieur Gier, je voudrais insister à ce sujet. Ici, ce n'est pas une question d'ingérence, ce n'est pas une question de souveraineté. Vous pensez que l'Union européenne n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans notre pays? Je crois que c'est un faux débat. L'Union européenne est au courant de tout ce qui se passe dans notre pays. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Maître Gaël. Pour vous, l'Union européenne est le premier partenaire commercial de la RDC. À ce titre, vous avez profité pour prodiguer des conseils au gouvernement congolais de prendre en compte les recommandations de ce communiqué de l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question d'ingérence ou encore de la souveraineté, mais c'est le respect des accords et traités internationaux régulièrement conclus qui ont une autorité supérieure à celle des lois du pays. Merci beaucoup. Cyril, vous êtes à la Banque de Nouville. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Gilles, bonjour à la Radio Capi, bonjour au peuple congolais.
Quel est votre avis, Cyril?
Monsieur Gilles, il faut qu'il y ait une alternance dans nos argumentaires. Monsieur J.R., la RDC est un pays qui a déjà accédé à sa souveraineté internationale. Je rappelle les textes de l'indépendance. Le Congo accède en ce jour, en plein, le 30 juin 1960, en pleine amitié et collaboration à la souveraineté internationale. Point. Nous avons accédé à la souveraineté internationale, bien sûr, le 30 juin 1960, Monsieur Sierre, l'Occident, l'Orient, les États-Unis, quoi que, en fait, quoi que je sais pas, vient faire quoi dans la démocratie congolaise? L'annonce des éventuelles sanctions aux présumés qui bloquent le processus électoral. Monsieur Gilles, qui bloque le processus électoral? Pourquoi ce procès d'intention? Hier, Monsieur Nanga est passé ici sur vos antennes, toujours dans cette même émission, il a éclairci l'opinion sur cet épineux problème d'organisation des élections. Je prends le terme et processus veut dire quoi, Monsieur Gilles? Hier. Je crois que le processus est clair. La CENI est un organe technique. Elle n'a pas refusé de ne pas organiser les élections à l'île du Congo, Monsieur Zier. Attendez, je dois vous dire quelque chose de très important. D'abord, qui transmet aux ambassadeurs accrédités en RDC ce genre d'informations? C'est sérieux et c'est dangereux. Le ministre de la Justice a raison. Ils n'ont pas vérifié cette information et immédiatement, ils étaient dans l'obligation de pouvoir transmettre officiellement à leurs pays respectifs. C'est grave, M. Gilles. Vous savez, hein, le peuple congolais, le Congo n'est plus un pays qu'on doit marteler là-dessus. L'article 70, que c'est pas l'Occident, l'Orient, l'Union internationale, interprète très mal. Mais c'est clair, l'article 70 dit ici que le président en fonction, plutôt, Gilles, s'il vous plaît.
Allez-y.
Le président en fonction, le président désiré sera en fonction jusqu'à ce qu'il y aura élection d'un nouveau président. La CENI n'a pas dit qu'il n'y aura pas élection. Il y aura élection. Mais parce qu'il y a des problèmes que nous devons nous mettre d'accord. Entre autres, le problème du fichier qui pose problème.
Oui, Cyril.
Oui.
Vous l'avez évoqué, nous avions reçu Corneille Nanga, président de la CENI hier, qui nous a, en fait, donné des explications claires, ce qui retardait, en fait, la publication du calendrier électoral. Pour lui, tout cela s'est justifié par rapport à ces trois facteurs, notamment le budget et aussi la logistique. Alors, s'agissant de la question sur la logistique, il a eu des garanties, certes claires, de la part de certains partenaires, hein, pour pouvoir organiser les élections. Le budget, il y a déjà le décaissement, mais il reste un problème que nous tous, nous estimons, pas les moindres selon ses propos, les consensus politiques. Elle a dit ça n'aura aucune influence sur la publication du calendrier et l'organisation des opérations électorales. Donc je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais le débat aujourd'hui, c'est que on assiste pratiquement à un jeu de ping-pong entre certains partenaires et le gouvernement congolais. Le gouvernement qui demande à ces derniers d'avoir la vraie information à transmettre, notamment officiellement à leur pays respectif sur la situation en RDC pour ne pas verser notamment dans la spéculation. De l'autre part, certains partenaires promettent d'éventuelles sanctions à l'endroit des personnalités présumées responsables du blocage du processus électoral et des restrictions des libertés fondamentales. Le premier auditeur qui est intervenu a évoqué quelques cas des restrictions des libertés fondamentales, entre autres l'arrestation des opposants, le refus, disons, de ne pas autoriser les marches pacifiques et tant d'autres, en fait, qui rentrent dans le cadre de restrictions des libertés fondamentales. Alors, donc, je crois qu'à ce niveau, est-ce qu'on peut dire que la souveraineté de l'État, le débat sur cette souveraineté est à nouveau relancé?
Bon, écoutez, monsieur J.R., je crois que tu as été très précis par rapport
à ta problématique, mais je m'aide avant que je puisse répondre à votre question, parce que nous sommes dans cette voie à réfléchir sur une question très importante pour l'intérêt de la vie montée du Congo. Vous, vous êtes Congolais, vos journalistes, vous êtes Congolais là. Moi aussi, je suis Congolais. Et même les autres là qui appellent, ce sont des Congolais. Hier, je crois qu'ils ont eu à attaquer pas mal la Chine. Tout le monde a parlé négativement sur ça. Personne a appuyé, a été d'accord avec ce que Nanga a dit. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas toujours, pas seulement des non, il y a aussi des oui, des oui. Aujourd'hui là, la même question prend une autre forme. C'est vrai, vous avez reformulé la question et vous avez été dans les sondages, vous avez même compris que le partenaire commence pratiquement à nous lancer dans une télévisation impossible, dans des consultations par-ci, des installations par-là, par rapport à la question de l'élection en RDC. Monsieur, je peux répondre. Laissez-moi un peu, ne plus 30 secondes. Vous avez compris quelque chose. Vous savez, dans un pays qui se respecte, la liberté est là, mais la liberté est réglementaire. La liberté des manifestations, la liberté, je ne sais pas de quoi ça, mais elle est réglementaire. C'est pas parce qu'on s'est dit opposant, et etc., on doit se mettre sous la rue en train de déclarer, voilà, voilà. Non. C'est réglementaire. Quand on vous accorde, ok, mais quand on refuse, vous laissez tomber. Écoutez, moi je pense que ce partenaire-là doit absolument aller rencontrer le président de la CENI, doit aller rencontrer le personne à qui il doit pour avoir des informations fiables par rapport à ça.
Est-ce que vous savez que c'est Cyril? Est-ce que vous savez que nous sommes sous un régime d'information et non un régime d'autorisation?
Non, JR. Oui, le régime d'information, je dis oui, mais je dis aussi non. Parce que si aujourd'hui, vous, JR, tel que vous êtes là, je vous ai vu à la cité en train de prendre une petite bière à côté là. Moi, je tourne là-bas, je vais dire à tout le monde, je vis, j'ai en train de prendre une petite bière, il est avec les opposants. C'est vraiment compliqué. Non, parce que, attendez, il faut descendre sur place, vérifier, gérer et avec qui. Il prend la bière là, il fait quoi? Il est en train de dire quoi là-bas? C'est ça la vraie information. Alors, vous voulez l'alimenter? Attendez. Nous voyons. Merci. Nous, le peuple congolais, nous voyons. Mais le fait de voir là, nous interprétons ça autrement ou contrairement à ce que nous sommes en train de voir. C'est ça notre grande difficulté.
Merci
parce
beaucoup.
Que le voir, ce n'est pas le faire. C'est ça, c'est deux termes différents, monsieur J.R.
Merci.
Donc, moi, je m'intéresse ici.
Oui, allez-y, rapidement.
Je vais chuter, c'est pour dire que chacun, chacune de nous est en conséquence interpellé. Les Congos nous appartiennent. Nous devons prendre notre responsabilité à main. Nous ne devons pas commencer à obéir aux injonctions des étrangers qui commencent à venir dans notre pays. En fait, qui est ce pays-là que la RDC a déjà donné des injonctions ou des ordres par rapport à l'aide, de présentation des élections? Non. Aucun pays, le Congo nous appartient, que le peuple congolais, qu'il soit à l'étranger, qu'il soit ici, puisse sécuriser et protéger son propre pays. Ça, c'est un patrimoine que nos ancêtres nous ont laissé. Il ne faudrait pas que, en fait, la petite Europe, il vient ici, la traiter quelque part, il commence à traiter les affaires du Congo comme si il était réellement congolais, non seulement congolais, mais comme si il était au Congo, il est une petite... Non, attendez, nous devons...
Merci beaucoup, Cyril, on vous a... vraiment accorder la parole jusqu'à au-delà même de 30 secondes que vous avez demandé. Alors, Sylvain, vous êtes à Bounia. Merci de nous avoir rejoint.
Oui, bonjour. Je voudrais saluer tous les Congolais. Mais il faut aussi mentionner ce débat puisqu'il est très important. Pourquoi? Parce que la question des élections, dans tous les États qui se respectent, c'est une question effectivement de la souveraineté. Mais je dis aussi la question des élections, c'est une question de vie ou de mort. Ce qui est vrai, c'est que le débat que nous lançons aujourd'hui, c'est un débat qui doit s'articuler autour de deux grandes dimensions. D'abord la dimension nationale et la dimension internationale. Pourquoi la communauté internationale se plaint du fait qu'il y a des gens qui s'arrangent pour bloquer les processus électoraux? Et aussi, par ricochet, il y a les mêmes personnes qui s'arrangent aussi pour créer des problèmes face aux libertés publiques. Donc ce sont des vraies questions sur lesquelles on doit échanger. Mais si les journalistes, il faut que les Congolais comprennent une chose, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans une époque de la gouvernance mondiale, où les standards internationaux en matière de la gouvernance des États existent. Et cela appelle aussi à une nouvelle mentalité des acteurs politiques qui surtout sont au sommet des États. Aujourd'hui, il faut se dire la vérité, c'est que lorsque l'on regarde la façon dont on gère l'État congolais, on a le risque vite de tomber dans une présomption d'une gouvernance archaïque et traditionnelle de l'État. Et pourquoi on ne peut pas comprendre qu'au sein d'un gouvernement normal qui existe et qui a été toujours doté annuellement des budgets de toutes les rubriques de ces activités en plus de l'organisation des élections. On arrive à la fin d'un mandat, on dit aux gens, on ne fait pas de l'élection. En tout cas, dans un pays qui respecte, dans une démocratie qui est normale, on demanderait au Premier ministre et son équipe de démissionner. Puisque là, j'ai dit clairement que par rapport aux prérogatives constitutionnelles qui sont reconnues au gouvernement, il y a aussi l'organisation des élections dans un cycle bien défini par l'article 211 de la Constitution. Dis ça quoi que j'ai servi dans cette émission.
Oui, c'est vrai. Je crois qu'à ce niveau-là, jusque-là, il n'y a pas encore des restrictions des libertés fondamentales, telles qu'évoquées par l'Union européenne.
Non, écoutez, messieurs les journalistes, vous savez qu'il y a les premiers journalistes qui essayaient un peu de brosser l'image de notre scène politique. Je ne vais pas y rentrer puisqu'on va faire de tels musulmans. Nous savons tout ce qui se passe dans ce pays. Et bien, moi, je me dis ceci. Il faut que les gens arrivent à comprendre que la question de la gestion de l'État est une question de mental. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse prêcher au président de la République qui est arrivé au 19 décembre. Il faut que le pouvoir, je dis non. On connaît que si on dépasse une limite, on risque de créer des difficultés. Certes, il y a des rapports qui passent. Je peux ici dire, contrairement à ceux qui pensent que la souveraineté des États freine à ce qu'un autre État ne parle pas d'un État quelconque. Non. Écoutez, quelles sont les grandes politiques actuelles en matière de gouvernance des États? Messieurs, les États-Unis, ils disent des choses sur le Congo. Les Congo peut dire des choses sur l'unité. C'est la défense des politiques que nous avons mises en place. Et aujourd'hui, si aujourd'hui certains États s'intéressent à la question du Congo, c'est plus que souvenez-vous. Mais si nous avons quitté Santiki, qui n'ont pas mis des efforts pour reconstituer la RDC. Et donc si ces gens veulent donner quelque chose à faire, mais des conseils, le dit que ce sont des injonctions. Mais lorsque le même État, à travers Faceni, demande des fonds des étrangers, ou ça demande des fonds de la communauté internationale, ce n'est pas une ingérence. Moi, je dis tout simplement, il faut qu'il y ait une réévaluation des outils de la gouvernance des États qui composent d'abord l'ONU, la RDCP, membre de l'ONU. Et moi, je dis, si sanctions y avait, ces sanctions devaient d'abord provenir de l'Organisation des Nations Unies, qui, la RDCP fait partie de l'ONU, pour qu'on essaie d'évaluer qui est responsable des conflits et des crises internationales. Parce que lorsque les questions électorales vont poser problème de conflits, ces conflits vont quitter les frontières congolaises et vont attaquer même les premiers diminuateurs des États-Unis d'Amérique. Puisque aujourd'hui, s'il y a question d'intervention de la communauté internationale au Congo, cela pose même les ménages allemands, même les ménages français. Et donc ces gens, par l'esprit d'anticipation, doivent interpeller les autorités congolaises. Attention, si vous créez les désordres et que cela va déstabiliser notre pays, nous disons nous allons fonctionner. Ce qui est vrai, il faut que les gens comprennent, c'est qu'aujourd'hui, les gens doivent comprendre que lorsque j'ai un voisin, ma vie personnelle, à moi, dans ma parcelle, peut aussi toucher les voisins lorsque j'ai des désordres. Et c'est ce qui oblige que aussi nous puissions déjà informer notre voisin, mais dire les voisins. Si tu allumes des feux à des hommes, si tu laisses les enfants jouer avec le feu, ça peut attaquer ta maison et venir attaquer ma maison. Voilà ce qui se dit.
Merci.
Il n'y a rien des options. Il n'y a rien des options. C'est tout simplement une question de responsabilité nationale et internationale.
Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir appelé de Boulia 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Chaque jour, la fréquence de la PMU le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Kapi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Kapi.
Voilà, il faut encore merci de votre fidélité à Radio Okapi, à Denis ou à Sophie depuis Baraka, vous avez écrit. Et vous avez dit qu'il est vraiment temps que l'Union Européenne passe à l'action, car en dépit de toutes les menaces proférées par la communauté internationale aux autorités congolaises, ces dernières ne veulent pas jouer les jeux démocratiques. La répression des manifestations pacifiques, fermeture des médias proches de l'opposition et les arrestations et détentions arbitraires des opposants et d'autres prisonniers d'opinion, tous ceux qui se sont, tout cela, ce sont des exemples palpables qui prouvent prouve à ce que je pense qu'il y a un problème. Christian Poutou, salut, depuis la RDC, la RDC Congo, moi je pense que l'Occident a pleinement raison car les choses ne sont pas cachées et je me demande si le gouvernement congolais pense que l'intelligence et la sagesse sont deux choses qui ont été faites pour ceux qui sont au pouvoir. Chico Bassa Kananga, le message adressé par les ministres des Affaires étrangères à l'égard de la RDC est tout à fait salutaire. Mais c'est un message qui est mélancolique. Dans le sens dont nous observons les choses, je ne pense pas que ce message aura un impact ou un bon résultat. Et surtout, si on ne fait pas attention, nous risquons de nous retrouver tous dans une confusion totale. Voilà, donc vous êtes nombreux à nous envoyer des messages. Nous allons découvrir au cours de cette émission. Étienne, vous nous avez rejoint, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Quel est votre avis?
Oui, merci pour m'avoir donné la parole. Moi, c'est Étienne Douma, Kinshasa. Je dirais ceci par rapport au communiqué de l'Union européenne. Si ils ont donné ce communiqué, c'est qu'ils ont des informations sûres par rapport aux personnes qui bloquent le processus. Donc, ce n'est pas pour rien, ils peuvent se prononcer s'ils n'avaient pas des informations sûres. La deuxième des choses, et que nous, le Congolais, lorsqu'on nous félicite, comme par exemple, on dit, nous évoluons en matière de la sécurité, nous sommes 10e en Afrique, là nous applaudissons, là nous trinquons le verre. Mais lorsqu'on nous fait des remarques, là nous disons, vous n'avez plus de leçons à nous donner, nous sommes un pays souverain. Non, on ne peut pas être comme ça. Même un homme normal doit écouter les conseils, doit écouter les remarques, mais aussi les encouragements. En fait, si j'ai du mal à croire que parfois nous allons vraiment à l'université et acquérir la connaissance qu'il nous faut. D'autant plus que nous avons des intellectuels qui ont 6 diplômes des doctorats, mais malheureusement, la façon dont il réagit, c'est comme si nous étions encore des enfants. C'est pas vraiment un bon exemple pour la politique congolaise. Vous voyez, dans l'ancien temps, il y a un président sénégalais qui nous a traité des immatures politiques. Aujourd'hui, nous étions à Saint-Titi. Il a fallu un facilitateur. Aujourd'hui, nous avons Eden Kodjo qui est un facilitateur pour dire que nous ne grandissons pas. Donc, moi, je pense que à un moment donné, nous devons transcender cette étape où nous devons avoir toujours des facilitateurs. Parce que ça ne donne pas une bonne image par rapport au grand pays que nous sommes. En Afrique, aujourd'hui, disons, l'Afrique pays, la quasi-totalité des détenus, ce sont des Africains. Pourquoi? Parce qu'un Africain veut toujours le pouvoir au bout du canon, comme le disait Mao Tse-Tung. Donc, on ne peut pas de nous-mêmes nous dire non, j'ai obtenu le pouvoir, j'ai fait mon mandat, j'ai fini, je dois laisser à un autre calmement. Non, il faut toujours qu'il y ait de guéguerre. Ça, c'est vraiment pas un bon exemple pour notre président de la République qui a lutté afin qu'aujourd'hui nous ayons cette démocratie. Vous voyez, je dirais encore ceci. Le politicien congolais, c'est comme le pasteur. Donc, on a une Bible à la main, mais on choisit le verset à mettre en pratique et le reste, on rejette. Donc, c'est ça avec notre constitution. Les articles qui nous valent, nous les acceptons. Mais ce que nous trouvons, non, ça c'est pas bien pour nous, nous le mettons de côté, c'est pas bien. Donc le président Kabila, pour moi, je pense qu'il est grand temps qu'il se prononce. Lorsqu'il se prononcera, je pense que ça ne sera plus important même de débattre sur ce sujet. Donc il suffit tout simplement qu'il se prononce. Donc ma contribution par rapport à l'émission est que le président lui-même se prononce.
Oui, mais je crois que Étienne, je crois que nous, ça relance quand même le débat sur la compréhension générale du consensus politique, parce que nous avons suivi le président de la CENI hier au cours de cette émission, qui a donné les quatre facteurs qui ont retardé d'ailleurs la publication du calendrier électoral, entre autres le budget, la question de la logistique et aussi, en troisième lieu, un facteur pas le moindre, selon lui, les consensus politiques. Alors, quand on parle de consensus politique, ça veut dire que aujourd'hui, cette confusion, ou en fait, le manque d'accord entre la vision des uns et la vision des autres sur les fichiers électoraux, d'aucuns qualifient ces fichiers des pollués ou encore des corrompus, qu'il s'agisse des gens de la majorité ou encore de l'opposition. Alors, cela nous renvoie pour dire que aujourd'hui, ces débats, quand on parle d'éventuelles sanctions à l'endroit des personnalités présumées responsables du blocage, il n'y a pas que ceux qui sont au pouvoir, il n'y a pas que ceux qui sont de la majorité, mais il y a également même ceux qui sont de l'opposition qui ne veulent pas que le processus avance. Donc je crois que c'est à ce niveau, ça concerne tout le monde, n'est-ce pas? Voilà, notre auditeur n'est plus en ligne, on va prendre plutôt Fabrice qui est en Bandaka. Fabrice, merci de nous avoir rejoint.
Merci, monsieur Jules. Merci, et m'a rappelé encore pour participer à cette émission.
Quel est votre avis, Fabrice?
Oui, monsieur Jules. Nous devons comprendre quelque chose. C'est que, si on fait le dossier international, il a une personnalité juridique qui les renferme.
Voilà, Fabrice, le temps que la ligne s'améliore, je crois que la réalisation pourrait nous donner plutôt Maître Serge qui est à Camina. Maître Serge, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Oui, allez-y, Maître Serge.
En tout cas, bon, c'est avec un grand plaisir que je me pointe vraiment à donner un apport par rapport à la thématique. Vous savez, nous venons de loin. Par rapport aux élections, ce n'est pas le gouvernement qui bloquait ces élections-là. Il y a une certaine classe, on présente les calendriers, on a dit non, il nous faut un calendrier consensuel. On le présente, il n'était pas d'accord. Non, un calendrier global. On présente ces calendriers, les gens ne sont toujours pas d'accord. Et maintenant, on doit toujours chercher à donner force au gouvernement ou à la CENI. Et par rapport à ces gens-là, communauté-là européenne, on ne doit pas nous laisser vraiment libres. Nous sommes déjà indépendants depuis 1960. Elles doivent se mettre derrière nous. Et d'ailleurs, on se mettra dans la peau de quelqu'un qui, lorsqu'on en a eu l'autorisation, pourquoi chaque fois il y a des problèmes là chez eux? Et le Congrès nous a déterminé. Il y a des massacres, il y a des attentats. On n'a jamais parlé de sanctions, mais ils veulent toujours sanctionner les Congolais.
Oui, Fabrice.
Les Congolais doivent trouver solution elles-mêmes au
problème. Oui, Fabrice.
Si ça dépassait leur entendement, c'est pas qu'on peut les faire des gens là. En tout cas, nous ne sommes pas d'accord. Ces gens peuvent d'abord se retirer et recourir derrière le gouvernement. C'est le gouvernement qui devait vraiment le mettre au clair. Leur dire non, il y a ça, à ce moment ça bloque. On ne doit pas comme se situer dans une crise d'autrui. Non, nous sommes libres de indépendants. Nous sommes indépendants.
Oui,
par rapport à ces gens-là, le prédécesseur qui ont dit non, la souveraineté n'a rien à faire à la sanction. Non, nous condamnons ça avec amertume. On doit nous laisser. Même nous autres ici, on ne serait pas vraiment d'accord si le gouvernement allait à l'encontre. Non, on peut condamner.
Oui, Maître Serge. Oui, Maître Serge. Oui, Maître Serge, vous êtes juriste. Comment interprétez-vous l'article 215 de notre Constitution qui stipule que les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie?
Oui. Là, on ne peut pas réfléchir. On ne peut pas rejeter ça. Le grand problème, c'est quoi? Ces gens-là, on fait recourir derrière le gouvernement et avoir les informations plus claires. On ne peut pas déjà se mettre à prononcer pour dire qu'il y aura des sanctions. On va sanctionner qui? S'il n'était pas d'accord d'aller aux élections. Vous devez témoigner vous-même. On sait jamais d'intervenir. Nous sommes d'ailleurs les grands intervenants à la radio Capitale. Ça, en tout cas, il est grand temps de retirer d'abord les paroles là-bas et voir les choses, comment elles marchent. Hier, là, le Corneille Nanga est passé là-bas, il a bien clarifié. Ou encore prononcer le verdict de dire non, on va sanctionner les gens. Là, en tout cas, nous leur demandons de retirer cette parole-là.
Merci beaucoup, Maître Serge. Merci, Maître Serge. Alex, vous êtes à C'est Kappa. Bonjour, Alex.
Yeah.
Voilà, vous êtes à Tikapa, au Kasaï.
Oui, je suis dans la ville de Tikapa, chef-lieu de la nouvelle province du Kasaï.
Voilà, vous êtes où exactement?
Je suis dans la ville de Tikapa, chef-lieu de la nouvelle province du Kasaï. J'ai suivi avec intérêt les intervenants qui sont passés avant moi. Mais ce que je constate d'abord, c'est que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Depuis l'indépendance, le régime Mobutu disait la même chose. Donc, on le rappelait à l'ordre par rapport à la violation des droits de ses citoyens. Et par rapport à ça, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que nous sommes un continent qui a vécu 5 siècles d'esclavage, 80 ans de colonisation, énormément d'humiliation. Alors, tout ça, on a ça dans la tête, c'est entré dans la tête. On a tendance à repousser tout ce qui vient de l'extérieur. Mais moi, je pense que la souveraineté dont on parle n'est pas celle des dirigeants ou celle de ceux qui sont au pouvoir. La souveraineté réelle, c'est la souveraineté du peuple. Il ne faut pas maltraiter sa population sous prétexte de souveraineté. Non. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et nous constatons que dans le chef de nos dirigeants, il y a toujours cette conception traditionnelle du pouvoir. On accède au pouvoir et on veut absolument primer les autres. La RDC, mon pays, aujourd'hui, est un pays, est une république à double vitesse, où certaines personnes ont des droits, d'autres n'en ont pas. J'ai vu une manifestation des gens du pouvoir du PPRD ici avec des drapeaux, il n'y avait aucun problème, aucune difficulté. Mais la manifestation qui avait été prévue le 26, il y avait des policiers partout. Participer aujourd'hui en République démocratique du Congo à une manifestation de l'opposition, c'est une activité à haut risque, à haut risque. Mais il y a eu tellement de souffrances. Combien de gens sont emprisonnés? Il suffit seulement de lever la voix pour qu'on vous arrête. On est dans une république à deux vitesses. Il y a des citoyens qui ont plus de droits que d'autres. Donc la justice est là en fonction de son appartenance politique. Et par rapport à ça, je ne suis pas d'accord. Je pense que nous sommes dans une communauté internationale. Il faut voir la communauté internationale comme un ensemble de choses, un tout cohérent. Je peux vous donner des exemples en Afrique. Pierre Buyoya avait renversé Bantunganya, je pense en 2003 ici, c'est la CEAC, notre communauté ici, qui avait imposé des sanctions à M. Buyoya. Personne n'avait des relations avec Buyoya jusqu'à ce qu'on a organisé les élections et la rébellion du CNDD a commencé et puis finalement, on est allé aux élections. Les Africains se sont réunis, ils ont imposé des sanctions parce que les dirigeants s'accaparent la souveraineté pour maltraiter leur propre population. Mmh. Et ça, ce n'est pas tout à fait correct. La souveraineté aujourd'hui de la RDC ressemble à la souveraineté dont bénéficiait le Zimbabwe. Vous savez que c'est un pays qui a été colonisé à un moment par l'Union sud-africaine et après la Deuxième Guerre mondiale, le Zimbabwe a accédé à l'indépendance. Mais un certain Ian Smith, une minorité blanche qui gouvernait. Et on parlait toujours de souveraineté. Souveraineté, Staline a tué combien de gens?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous l'avez comparé à notre pays? À quel niveau?
Je le compare à notre pays au niveau que la souveraineté est celle des dirigeants. C'est la classe dirigeante, la bourgeoisie, qui accède au pouvoir et qui utilise la souveraineté comme un moyen pour pouvoir refuser les droits aux autres, à sa propre population, de manière à ce qu'ils puissent toujours se maintenir au pouvoir. Et par rapport à ça, je pense que, étant dans une communauté internationale, ingérence ou pas, je suis tout à fait d'accord que
la communauté internationale puisse faire des recommandations. Merci.
Elle peut faire des recommandations.
Merci beaucoup, Fabrice. On va prendre Adrien qui est à Kinshasa. Adrien, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, monsieur Gilles. En tout cas, j'ai une petite commentaire à donner là-dessus parce que le débat est ouvert.
Oui.
Que les Congolais sont vraiment au courant de ce qui se passe dans notre pays. Mais, M. JR, je suis opposant, moi, je vous parle. Mais j'ai un problème un peu à donner un peu conseil. Mais avant d'y arriver, je vais un peu parler sur le plan communiqué, les communiqués qui fait débat autour de cette émission. Et les Congos, beaucoup des auditeurs ont parlé là-dessus, dire que nous sommes un pays de souveraineté, tout ça. Bon, c'est bien. Mais je voudrais vous dire, M. JR, que aucun pays du monde ne peut vivre sans la collaboration des autres. Donc c'est bien, nous sommes indépendants. Mais même la France, si aujourd'hui la France décide de dire que je veux vivre de manière indépendante, sans avoir de conseils ailleurs, je crois que la France ne pouvait pas développer. Les communiqués, je l'ai dit, c'est bien. Mais laissons cet esprit-là de dire que chaque fois lorsqu'il y a un communiqué qui vient de l'étranger, on parle de l'Union européenne, et nous commençons à intervenir, dire non, 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 ce sont des injonctions. Non, non. Moi, pour moi, est-ce que nous ne pouvons pas seulement dire que cette communiqué-là est comme un état, comme conseil chez nous, et on pouvait l'exploiter aussi. Parce que dire que non, l'Union européenne n'a pas de recommandations à nous faire, M. JR, je ne crois pas. Bien que nous sommes indépendants, non, non, non. Mais comme je viens de dire au début, qu'aucun pays du monde peut vivre indépendant. En tout cas, non. Donc, je crois que là, c'est un. Et deuxièmement, j'ai entendu un intervenant dire que il suffit de lever le voile, vous êtes arrêté au Congo, tout ça. C'est bien. Moi, je vous parle, je suis opposant. Cela ne veut pas dire que quand tu viens d'opposant et tu te soustrais même de la justice, tu ne peux pas faire l'objet d'une interpellation. Non. Lorsqu'il y a des erreurs, on doit vous interpeller, on doit vous arrêter. Donc, vous allez me dire, JR, que seulement les opposants, lorsqu'ils commettent des erreurs, on ne peut pas les arrêter. Seulement, il faut arrêter la population. Donc, finalement, il y a une différence entre population et...
Oui, oui, oui. Mais il y a des inquiétudes, Adrien, aujourd'hui, quand on annonce d'éventuelles sanctions à l'endroit des personnalités présumées responsables. Est-ce que ça sera à charge de quelle justice? C'est ça la question. Parce que on sait tout de même qu'aujourd'hui, la justice, dans son ensemble, en Afrique, pose souvent problème. Le tout dernier procès, par exemple, de Lycée Nabré, que nous allons consacrer dans le prochain débat, d'ailleurs, qui fait quand même l'exception hein, aujourd'hui, ou qui annonce quelques avancées sur la justice africaine. Mais dans l'ensemble, la justice africaine, elle est une justice à deux vitesses, une justice qui n'est pas acceptée par tous, quoi.
Mais c'est bien, Julien. D'ailleurs, vous venez de compléter ce que je viens de dire. Mais c'est pourquoi. Et lorsqu'il y a deux interpellations au niveau des autorités de la République, mais nous allons, le président de la République vient de convoquer un dialogue. Allons les traiter au dialogue, tous ceux qui bloquent le pays. C'est pourquoi le son interpellé sur le dialogue, donner le temps au dialogue, comme ça, tout ça, le dialogue le prendra en compte. On devrait le discuter au niveau des dialogues, tout ça pour mettre à l'avenir que ces histoires d'arrestation arbitre ne viennent plus. Donc c'est ce que nous devons faire. Ce n'est pas chaque fois lorsqu'il y a un problème, vous passez à la radio, donner des... Non, 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 non. On ne fait pas l'opposition comme ça. On ne marche pas le pays comme ça.
Lorsque merci.
Vous vous jetez à la radio. Non, non. Allons au dialogue.
Merci
même
beaucoup.
Si bien sûr que parfois j'étais contre
le dialogue.
Voir ce qui se passe au dialogue, mais allons au dialogue.
Maintenant, vous avez compris l'intérêt. Merci beaucoup, Adria, d'avoir appelé. Fabrice, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue à la parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur JR. Je salue tous les patriotes comme auditeurs de la Radio Capi pour ces moments précis.
Alors, comment commentez-vous cette actualité?
Monsieur JR, le Congo, c'est notre pays. Nous devons avoir souci de ce pays. Vraiment, nous devons avoir ce souci de votre patriote dans ce pays. Pourquoi nous le disons, monsieur JR? Vous allez comprendre que l'organisation internationale, l'Union européenne, c'est une organisation internationale. Avant d'y adhérer, dans l'État membre, il y a l'acte constitutif qui détermine les moyens d'adhésion. Et lorsque le pays s'engage, c'est ce que je veux dire, il s'engage dans toutes les choses qui vont survenir après. C'est que je dis, il y a un principe de précaution. Et l'État doit voir il doit observer. Si cela est possible, il s'engage. Si je vois qu'il n'est pas possible de s'admirer, il se retire favorablement. Mais je jure, si l'Union européenne aujourd'hui nous dit cela, parce qu'il nous fait rappel, nous-mêmes ne sommes pas à mesure de comprendre ce qui se passe dans notre pays. C'est ainsi qu'il nous interpelle d'avoir une vision concrète par rapport à cela. Mais c'est sûr, la Constitution est le bel et bien clair. Elle est claire quand on sait. Quand tu dis dans ton article 1515, il y a la suprématie du droit international sur le droit interne. Cela veut dire quoi? L'Union européenne a une personnalité juridique. Et cette personnalité juridique a été dotée à l'Union européenne par les États membres. C'est qui veut dire? Ces États membres-là, ils ont donné une partie de leur souveraineté à l'Union européenne. Donc l'Union européenne a le même temps, le temps aussi, de dire si ça ne va pas ou ça ne va pas. Pourquoi? Juste pour maintenir la paix. Parce que la première mission d'une organisation internationale, c'est tout d'abord de prévaloir ou de maintenir de la paix. C'est ainsi que lui, elle, comme Fichon, il a dit devant, il nous a dit de prévaloir de maintenant, de prendre des précautions de maintenant, pour ne pas que, à la longue, ou le 19 décembre de cette année ici, qu'il y ait des antagonismes ou qu'il y ait des groupes de pression, en fait. Ah, mais c'est je ne devrais pas faire les choses comme ça se passe.
Merci beaucoup, Fabrice. Pierre, vous êtes à Kindou, bonjour, et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, monsieur J.R. pour cette émission. Moi, je voudrais dire les communautés de l'Union européenne, mais pas une ingérence, mais par contre, c'est un rappel à l'ordre. Un principe de droit international qui dit ceci, la licéité ou la légalité précède toujours à la légitimité. C'est-à-dire, lorsqu'il y a violation des droits de l'homme, eh bien la communauté internationale peut toujours rappeler à l'ordre. Et pour terminer mon intervention, je voudrais dire ceci, que le président de la CENI, comme il a donné l'éclaircissement, qu'il propose un calendrier où il y aura élection de tous les scrutins le même jour, exemple la présidentielle, législative et les provinciales. Par conséquent, on aura évacué tous ces malentendus, Sénat, les assemblées qui ont viré. Et là, ça va nous permettre de barrer la route à tous ces problèmes-là. Voilà, M. Julien, ma contribution à votre émission.
Merci beaucoup, Pierre, d'avoir appelé et contribué dans cette émission. Papi Kungu, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, mon frère.
Quel est votre avis?
Oui, mon avis, il est, c'est un avis patriotique et nationaliste. Je tenais à le préciser parce que par rapport à la lettre qui a été envoyée à Obama par trois sénateurs américains, je préfère apporter une précision parce que j'ai bien suivi certains intervenants à la radio Capi dire au regard de l'article 215 que les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont de leur publication une autorité supérieure à celle de loi. Et c'est pour dire que je voudrais apporter d'abord une précision que ici il n'y a pas eu un accord ou un traité conclu entre les sénateurs américain et le gouvernement congolais. Il n'y a pas eu un traité régulièrement conclu. Il s'agit des sénateurs américains dans leur activité, dans leur prérogative en tant qu'élus au département américain, au Sénat américain plutôt.
Oui, voilà, papi. C'est
une résolution.
Oui, papi. Je ne sais pas si vous avez pris au cours de cette émission, nous parlons de ces communiqués de l'Union européenne. C'est communiqué qui exhorte donc le gouvernement congolais à favoriser les conditions compatibles avec la tenue d'élections libres, transparentes, inclusives et pacifiques, avec en point de mire la présidentielle et les législatives nationales. Alors, après
oui, avoir... Monsieur, oui. Le communiqué de l'Union européenne, c'est un tandem du communiqué qui a été écrit par les sénateurs américains.
Oui.
J'allais à en venir.
Voilà, c'est pour ça que c'est par rapport au temps. Nous allons tout droit.
Les questions, d'abord, la République démocratique du Congo est le pays où les droits de l'homme s'améliorent par rapport à d'autres pays africains que vous connaissez, même le pays voisin, qui sont tous autour de la République démocratique du Congo. Dans ce pays, nous avons plus ou moins 450 partis politiques qui n'existent dans aucun pays en Afrique. Nous avons plus ou moins une cinquantaine de chaînes dans la capitale de Kinshasa qui n'existent dans aucune capitale de l'Afrique. Nous avons des manifestations publiques qui sont organisées, autorisées par les autorités, mais dont
souvent ce sont les mêmes organisateurs de manifestations qui ne respectent pas les prescrits des accords qui sont signés au préalable avec l'autorité qui doit garantir leur marche de, ou leur manifestation, c'est de un. Aujourd'hui, monsieur, l'Union européenne ne peut pas nous dire pour une question relative à la souveraineté. Les élections. Les élections, au regard de notre constitution, sont direction de la Commission nationale indépendante. On n'a pas dit la Commission internationale d'indépendance. Nous ne pouvons pas, nous, pour des questions liées à la souveraineté de notre État, nous, hypothéquer parce qu'il y a des gens qui peuvent commencer à nous donner des ordres. L'Union européenne est avec nous dans ce pays, c'est un partenaire. Mais il faudrait que ces partenariats soient traités d'égal à égal avec considération mutuelle. Nous ne refusons pas, nous ne sommes pas dans un monde clos. Mais nous refusons 56 ans après l'indépendance. Que les gens se considèrent dans nos relations comme un père, un fils, un paternaliste, un assujetti qui doit répondre ou qui doit subir tous les dictats de la communauté internationale. Nous sommes partenaires, et bien nous avons toujours demandé à ce que dans ce partenariat qu'il y ait un respect mutuel. Aujourd'hui, on va rappeler aux Congolais les droits de l'homme. Mais est-ce que lorsque nous sommes en train de suivre dans les marches en Europe là-bas, des éléments de la police sont en train de réprimer des marches. Nous avons suivi aux États-Unis à Fougosson. Lorsqu'on est en train d'assassiner les nègres, les noirs américains, les assassins parce qu'ils ont la peau noire. Est-ce que nous avons suivi, nous, nos sénateurs, sous Kengo, écrire une lettre pour dire à Obama ou bien à l'Union européenne qu'il faut, il faut le droit de l'homme? Je crois que dans tout le pays, il y a des problèmes. Parce que je refuse. C'est ce sentiment de faiblesse, ce sentiment d'infériorité que certains Congolais, et c'est depuis ce sens, quand il y a de Lumumba, de Simon Kimbangu qui parlait pour l'identité, la dignité de notre peuple, il y a des gens pour un tasse de café invité dans une chancellerie ou chez un partenaire de la communauté internationale, ils sont capables de brader toute leur souveraineté, de brader toute leur identité ou leur dignité. Nous disons nous sommes une jeunesse responsable.
Merci beaucoup, Papy Kungu, d'avoir appelé les Kinshasa. Bon, voilà, on va accorder plus que 30 secondes à Jeff. Jeff qui nous a rejoint en dernier. Donc, Jeff, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, JF, ça va?
Très bien, merci. Quel est votre avis?
Oui, mon avis par rapport à ce sujet qui est très utile pour notre nation, ma contribution est la suivante. Nous avons une constitution à laquelle nous sommes tenus tous, la majorité de l'opposition, la société civile, à observer, respecter, parce que la constitution c'est la loi suprême de notre nation. Alors la position de l'Union européenne, elle n'est pas mauvaise. Mais quand l'Union européenne intervient chez nous, vous sentez qu'ils sont en train d'accentuer. Donc, ils se donnent avec toute force juste pour condamner les Congo du Congo. Mais nous sommes en Afrique centrale. Vous avez dit ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, à Nokanda, partout ailleurs. Mais pourquoi tu vas se concentrer sur les Congo comme ça, avec une rupture, avec des menaces de sanctionner les autorités? Alors moi je voulais dire ceci, nous-mêmes Congolais, pouvons nous prendre en charge et faire respecter notre constitution.
Merci beaucoup Jeff d'avoir appelé, et merci à tous d'avoir participé à ce débat citoyen. Nous n'allons pas nous quitter sans pour autant dire merci à Dieudonné Diangassa qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierre et la Mégie. J'ai lu Fesa Bourgonda et Tostanda. Cette émission vous a été présentée et coordonnée par Guillaume Lungembo sous la supervision de Martin Sebou-Jagué. À très bientôt.